Platon, Phèdre, le mythe de Teut. Les personnages de l'extrait du dialogue sont Socrate et Phèdre.
Sais-tu comment on peut être le plus agréable à Dieu par ses discours, écrits ou parlés?
Nullement. Et toi?
Je puis du moins te rapporter une ancienne tradition. Les anciens savent la vérité. Si nous pouvions la trouver par nous-mêmes, attacherions-nous encore beaucoup de prix aux opinions humaines?
Plaisante question. Mais dis donc ce que tu as appris des anciens.
J'ai entendu dire que près de Naucratis, en Égypte, il y eut un dieu, l'un des plus anciennement adorés dans le pays, et celui-là même auquel est consacré l'oiseau que l'on nomme Ibis. Ce dieu s'appelle Teut. On dit qu'il a inventé le premier, les nombres, le calcul, la géométrie et l'astronomie, les jeux d'échecs, de dés, et l'écriture. L'Égypte tout entière était alors sous la domination de Tamus, qui habitait dans la grande ville capitale de la Haute-Égypte. Les Grecs appellent la ville de Thèbes l'Égyptienne, et le dieu Amon. Teut vint donc trouver le roi, lui montra les arts qu'il avait inventés, et lui dit qu'il fallait en faire part à tous les Égyptiens. Celui-ci lui demanda de quelle utilité serait chacun de ces arts, et se mit à disserter sur tout ce que Teut disait au sujet de ses inventions, blâmant ceci, approuvant cela. Ainsi, Tamus allégua, dit-on, au dieu Teut, beaucoup de raisons pour et contre chaque art en particulier. Il serait trop long de les parcourir, mais lorsqu'ils en furent à l'écriture, cette science, ô roi, lui dit Teut, rendra les Égyptiens plus savants et soulagera leur mémoire. C'est un remède que j'ai trouvé contre la difficulté d'apprendre et de savoir. Le roi répondit. Industrieux Teut, tel homme est capable d'enfanter les arts, tel autre d'apprécier les avantages ou les désavantages qui peuvent résulter de leur emploi. Et toi, père de l'écriture, par une bienveillance naturelle pour ton ouvrage, tu l'as vu tout autre qu'il n'est. Il ne produira que l'oubli dans l'esprit de ceux qui apprennent, en leur faisant négliger la mémoire. En effet, ils laisseront à ces caractères étrangers le soin de leur rappeler ce qu'ils auront confié à l'écriture, et n'en garderont eux-mêmes aucun souvenir. Tu n'as donc point trouvé un moyen pour la mémoire, mais pour la simple réminiscence, et tu n'offres à tes disciples que le nom de la science sans la réalité. Car lorsqu'ils auront lu beaucoup de choses sans maître, ils se croiront de nombreuses connaissances, tout ignorants qu'ils seront pour la plupart. Et la fausse opinion qu'ils auront de leur science les rendra insupportables dans le commerce de la vie.
Mon cher Socrate, tu excelles à faire des discours égyptiens et de tous les pays du monde, si tu voulais.
Mon cher ami, les prêtres du temple de Jupiter de Dodone disent que les premières prophéties venaient d'un chêne. Ces hommes antiques n'étaient pas si savants que vous autres modernes, et ils consentaient bien, dans leur simplicité, à n'écouter qu'un chêne ou une pierre, pourvu que le chêne ou la pierre dit vrai. Toi, tout au contraire, tu demandes quel est celui qui parle et d'où il est. Tu n'examines pas seulement si ce qu'il dit est véritable ou faux.
Tu as raison de me reprendre, et il me semble qu'au sujet de l'écriture, le Thébain a raison.
Celui donc qui prétend laisser l'art consigné dans les pages d'un livre, et celui qui croit l'y puiser, comme s'il pouvait sortir d'un écrit quelque chose de clair et de solide, me paraît d'une grande simplicité. Et vraiment, il ignore l'oracle d'Amon. S'il croit que des discours écrits soient quelque chose de plus qu'un moyen de réminiscence pour celui qui connaît déjà le sujet qu'il traite.
C'est fort juste.
Car voici l'inconvénient de l'écriture, mon cher Phèdre, comme de la peinture. Les productions de ce dernier art semblent vivantes. Mais interrogez-les. Elles vous répondront par un grave silence. Il en est de même des discours écrits. Vous croiriez, à les entendre, qu'ils sont bien savants. Mais questionnez-les sur quelqu'une des choses qu'ils contiennent. Ils vous feront toujours la même réponse. Une fois écrit, un discours roule de tous côtés, dans les mains de ceux qui le comprennent comme de ceux pour qui il n'est pas fait. Et il ne sait pas même à qui il doit parler, avec qui il doit se taire. Méprisé ou attaqué injustement, il a toujours besoin que son père vienne à son secours, car il ne peut ni résister ni se secourir lui-même.
C'est encore parfaitement juste.
Mais considérons une autre espèce de discours, sœur germaine de celle-là. Voyons comment elle naît et combien elle l'emporte sur l'autre.
Quelle est cette autre espèce de discours et d'où naît-elle?
C'est le discours que la science écrit dans l'âme de celui qui étudie. Celui-là, du moins, peut se défendre, parler et se taire quand il le faut.
Tu parles du discours vivant et animé qui réside dans l'intelligence, et dont le discours écrit n'est que le simulacre.
C'est tout à fait cela. Réponds-moi donc. Un laboureur sensé, s'il avait des semences qu'il affectionna et qu'il voulut voir fructifier, irait-il sérieusement les planter en été dans les jardins d'Adonis, pour les voir à sa grande satisfaction devenir de belles plantes en moins de 8 jours? Ou bien, si jamais il le faisait, ne serait-ce pas par forme d'amusement ou à l'occasion d'une fête? Mais celles dont il s'occuperait sérieusement, sans doute suivant les règles de l'agriculture, il les sèmerait dans un terrain convenable et se contenterait de les voir arriver à leur terme 8 mois après les avoir semées.
Assurément, mon cher Socrate, les unes seraient pour lui l'objet d'un soin sérieux, les autres, comme tu dis, d'un simple amusement.
Mais celui qui connaît ce qui est juste, beau et bon, aura-t-il, selon nous, moins de sagesse dans l'emploi de ses semences que le laboureur n'en montre dans l'emploi des siennes?
Je ne le crois point.
Il n'ira donc pas sérieusement les déposer dans de l'eau noire, les semant à l'aide d'une plume, avec des mots incapables de s'expliquer et de se défendre eux-mêmes, incapables d'enseigner suffisamment la vérité.
Non, sans doute.
Non, mais s'il sème jamais dans les jardins de l'écriture, il ne le fera que pour s'amuser, en se faisant un trésor de souvenirs, et pour lui-même, quand la vieillesse amènera l'oubli, et pour tous ceux qui suivent les mêmes traces. Il se réjouira en voyant croître les plantes de ses jardins, et abandonnant aux autres hommes les divertissements d'une autre espèce, tandis qu'ils jouiront des plaisirs de la table et d'autres voluptés semblables, lui, si je ne me trompe, au lieu de ses amusements, passera sa vie dans le doux badinage que je viens de retracer.
C'est en effet un divertissement bien noble à côté d'un bien honteux, mon cher Socrate, que celui de l'homme capable de se divertir avec des discours et des entretiens sur la justice et les autres choses dont tu as parlé.
Oui, mon cher Phèdre, il est noble de s'en divertir. mais plus noble de s'en occuper sérieusement, de semer et de planter dans une âme convenable, avec la science, à l'aide de la dialectique, des discours capables de se défendre eux-mêmes et celui qui les a semés. Discours féconds qui, germant dans d'autres cœurs, y produisent d'autres discours semblables, lesquels, se reproduisant sans cesse, immortalisent la semence précieuse et font jouir ceux qui la possèdent du plus grand bonheur qu'on puisse goûter sur la terre.
Oui, cela est encore plus admirable.
Maintenant, mon cher Phèdre, ces différents points étant bien convenus entre nous, nous pouvons juger définitivement notre première question.
Laquelle ?
Celle qui nous a conduits où nous sommes, en voulant l'approfondir. Savoir si Lysias méritait le reproche que nous lui avons fait au sujet de la composition de ses discours. Et quels sont, en général, les discours faits avec art ou sans art ? Nous avons suffisamment expliqué, ce me semble, ce qui est fait avec art ou non.
Traduction Victor Cousin. Page 274C, 277C.